Soudain, Beautrelet s'interrompit. Le document. Au milieu d'une page, à gauche, ses yeux voyaient les 5 lignes mystérieuses de points et de chiffres. D'un regard, il constata que le texte était identique à celui qu'il avait tant étudié. Même disposition des signes, mêmes intervalles permettant d'isoler le mot « demoiselle » et de déterminer séparément l'un de l'autre les deux termes de l'aiguille creuse. Une petite note précédait. Tous les renseignements nécessaires ont été réduits par le roi Louis XIII, paraît-il, en un petit tableau que je transcris ci-dessous. Suivait le tableau. Puis venait l'explication du document. Beautrelet lut d'une voix entrecoupée. Comme on voit, ce tableau, alors même qu'on a changé les chiffres en voyelles, n'apporte aucune lumière. On peut dire que pour déchiffrer cette énigme, il faut d'abord la connaître. C'est tout au plus un fil qui est donné à ceux qui savent les sentiers du labyrinthe. Prenons ce fil et marchons, je vous guiderai. La quatrième ligne d'abord. La quatrième ligne contient des mesures et des indications. En se conformant aux indications et en relevant les mesures inscrites, on arrive inévitablement au but, à condition, bien entendu, de savoir où l'on est et où l'on va, en un mot, d'être éclairé sur le sens réel de l'aiguille creuse. C'est ce que l'on peut apprendre par les 3 premières lignes. La première est ainsi conçue de me venger du roi. Je l'avais prévenu d'ailleurs.
Quoi ? Qu'y a-t-il ?
Fit Massiban. Le sens n'y est plus.
En effet, la première est ainsi conçue de me venger du roi. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Nom de nom !
Eh bien,
déchiré ! 2 pages ! Les pages suivantes ! Regardez les traces ! Il tremblait, tout secoué de rage et de déception. Massiban se pencha.
C'est vrai, il reste les bribes de 2 pages, comme des onglets. Les traces semblent assez fraîches. Ça n'a pas été coupé, mais arraché. Arraché violemment. Tenez, toutes les pages de la fin portent des marques de froissement.
Mais qui ? Gémissait Isidore en se tordant les poings. Un domestique ? Un complice ?
Cela peut remonter tout de même à quelques mois.
Quand même ! Il faut que quelqu'un ait déniché et pris ce livre. Voyons, voyons, monsieur ! S'écria Beautrelet, apostrophant le baron. Vous ne savez rien ! Vous ne soupçonnez personne !
Nous pourrions interroger ma fille.
Oui, oui, c'est cela. Peut-être saura-t-elle. Monsieur de Véline sonna son valet de chambre. Quelques minutes après, Madame de Villemont entrait. C'était une femme jeune, à la physionomie douloureuse et résignée. Tout de suite, Beautrelet lui demanda « Vous avez trouvé ce livre en haut, madame, dans la bibliothèque ?»«
Oui, dans un paquet de volumes qui n'étaient pas déficelés. » »«
Et vous l'avez lu ?»«
Oui, hier soir. » »«
Et quand vous l'avez lu, les 2 pages qui sont là manquaient-elles ? » ?»« Rappelez-vous bien, les 2 pages qui suivent ce tableau de chiffres et de points. » »«
mais non, il ne manquait aucune page. »
« Cependant, on a déchiré. »«
Mais le livre n'a pas quitté ma chambre cette nuit. »«
Ce matin ?»«
Ce matin, je l'ai descendu moi-même ici, quand on a annoncé l'arrivée de M. Massiban. »«
Alors ?»«
Alors, je ne comprends pas. »« À moins que... »« Mais non. »«
Quoi ?»«
Georges, mon fils, ce matin, Georges a joué avec ce livre. »
Elle sortit précipitamment, accompagnée de Beautrelet, de Massiban et du baron. L'enfant n'était pas dans sa chambre. On le chercha de tous côtés. Enfin, on le trouva qui jouait derrière le château. Mais ces 3 personnes semblaient s'y agiter et on lui demandait des comptes avec tant d'autorité qu'il se mit à pousser des hurlements. Tout le monde courait à droite, à gauche. On questionnait les domestiques. C'était un tumulte indescriptible. Et Beautrelet avait l'impression effroyable que la vérité se retirait de lui, comme de l'eau qui filtre à travers les doigts. Il fit un effort pour se ressaisir, prit le bras de Madame de Villemont, et suivi du baron et de Massiban, il la ramena dans le salon et lui dit Le livre est incomplet. Soit. Deux pages sont arrachées. Mais vous les avez lues, n'est-ce pas, madame ?
Oui.
Vous savez ce qu'elles contenaient ?
Oui.
Vous pourriez nous le répéter ?
Parfaitement. J'ai lu tout le livre avec beaucoup de curiosité. Mais ces deux pages surtout m'ont frappé, étant donné l'intérêt des révélations, un intérêt considérable.
Eh bien, parlez, madame, parlez, je vous en supplie. Ces révélations sont d'une importance exceptionnelle. Parlez, je vous en prie. Les minutes perdues ne se retrouvent pas. L'aiguille creuse.
Oh, c'est bien simple. L'aiguille creuse veut dire...
À ce moment, un domestique entra.
Une lettre pour madame.
Tiens, mais le facteur est passé.
C'est un gamin qui me l'a remise.
Madame de Villemont décacheta, lut et porta la main à son cœur, toute prête à tomber, soudain livide et terrifiée. Le papier avait glissé à terre. Beautrelet le ramassa et, sans même s'excuser, il lut à son tour.
« Taisez-vous, sinon votre fils ne se réveillera pas. »
« mon fils !»
bégayait-elle, si faible qu'elle ne pouvait même pas aller au secours de celui qu'on menaçait. Beautrelet la rassura.
« Ce n'est pas sérieux. Il y a là une plaisanterie. Voyons, qui aurait intérêt ?»«
À moins, insinua Massiban, que ce soit Arsène Lupin. » Beautrelet lui fit signe de se taire. Il le savait bien, parbleu, que l'ennemi était là, de nouveau, attentif et résolu à tout. Et c'est pourquoi, justement, il voulait arracher à madame de Villemont les mots suprêmes, si longtemps attendus, et les arracher sur le champ, à la minute même.
« Je vous en supplie, madame, remettez-vous. Nous sommes tous là, il n'y a aucun péril. »
Allait-elle parler ? Il le crut, il l'espéra. Elle balbutia quelques syllabes. Mais la porte s'ouvrit encore. La bonne, cette fois, entra. Elle semblait bouleversée.
« Monsieur Georges, madame, monsieur Georges !»
D'un coup, la mère retrouva toutes ses forces. Plus vite que tous et poussée par un instinct qui ne trompait pas, elle dégringola les marches de l'escalier, traversa le vestibule et courut vers la terrasse. Là, sur un fauteuil, le petit Georges était étendu, immobile.
« Eh bien quoi ? Il dort ?»
Il s'est endormi subitement, madame. J'ai voulu l'en empêcher, le porter dans la chambre. Il dormait déjà et ses mains étaient froides.
Froides,
balbutia la mère.
Ah oui, c'est vrai. Ah mon Dieu, pourvu qu'il se réveille.
Beautrelet glissa ses doigts dans une de ses poches, saisit la crosse de son revolver, de l'index agrippa la gâchette, sortit brusquement l'arme et fit feu sur Massiban. D'avance, pour ainsi dire, comme s'il épiait les gestes du jeune homme, Massiban avait esquivé le coup. Mais déjà, Beautrelet s'était élancé sur lui en criant au domestique
« À moi ! C'est Lupin !»
Sous la violence du choc, Massiban fut renversé sur un des fauteuils d'osier. Au bout de 7 à 8 secondes, il se releva, laissant Beautrelet étourdi, suffoquant, et tenant dans ses mains le revolver du jeune homme.
« Bien, parfait. Ne bouge pas. T'en as pour 2 ou 3 minutes, pas davantage. Ah. Mais vrai, t'as mis le temps à me reconnaître. Faut-il que je lui ai bien pris sa tête au Massiban ?»
Il se redressa, et d'aplomb maintenant sur ses jambes, le torse solide, l'attitude redoutable, il ricana en regardant les 3 domestiques pétrifiés et le baron ahuri.
Isidore, t'as fait une boulette ? Si tu ne leur avais pas dit que j'étais Lupin, ils me sautaient dessus. Et des gaillards comme cela, bigre, que serais-je devenu, mon Dieu ? 1 contre 4 ?
Il s'approcha d'eux.
Allons, mes enfants, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de bobos.
« Tenez, voulez-vous un bout de sucre d'orge ? Ça vous remontera. »« Ah, toi, par exemple, tu vas me rendre mon billet de 100 francs. »« Oui, oui, je te reconnais. »« C'est toi que j'ai payé tout à l'heure pour porter la lettre à ta maîtresse. »« Allons, vite, mauvais serviteur. »« Il prit le billet bleu que lui tendit le domestique et le déchira en petits morceaux. « L'argent de la trahison, ça me brûle les doigts !» Il enleva son chapeau et, s'inclinant très bas devant Madame de Villemont, « Me pardonnez-vous, madame ? Les hasards de la vie, de la mienne surtout, obligent souvent à des cruautés dont je suis le premier à rougir. Mais soyez sans crainte pour votre fils. C'est une simple piqûre, une petite piqûre au bras que je lui ai faite pendant qu'on l'interrogeait. Dans une heure, tout au plus, il n'y paraît. Encore une fois, toutes mes excuses, mais j'ai besoin de votre silence. » Il salua de nouveau, remercia M. de Véline de son aimable hospitalité, prit sa canne, alluma une cigarette, en offrit une au baron, donna un coup de chapeau circulaire, cria d'un petit ton protecteur à Beautrelet « Adieu, bébé !» et s'en alla tranquillement en lançant des bouffées de cigarettes dans le nez des domestiques. Beautrelet attendit quelques minutes. Madame de Villemont, plus calme, veillait son fils. Il s'avança vers elle, dans le but de lui adresser un dernier appel. Les yeux se croisèrent. Il ne dit rien. Il avait compris que jamais, maintenant, quoi qu'il arrivât, elle ne parlerait. Là encore, dans ce cerveau de mère, le secret de l'aiguille creuse était enseveli aussi profondément que dans les ténèbres du passé. Alors il renonça et partit.